William Marx, bonjour. Permettez-moi, au nom de Denis Mollat, de son équipe et de moi-même, de vous remercier de nous accorder un peu de votre temps. Nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de la parution de votre dernier essai intitulé « Des étoiles nouvelles, quand la littérature découvre le monde » et vous publiez ce livre aux éditions de Minuit. Alors évidemment, il n'échappera à personne que vous éditez cet ouvrage chez l'éditeur à l'étoile bleue dessinée par Vercors. Permettez-moi de dire à nos auditeurs deux, trois choses concernant ce livre. L'an dernier, vous enseignez au Collège de France, et c'est à partir de votre enseignement, d'une riche documentation, d'éléments d'information que vous avez recueillis auprès de vos auditeurs et de vos auditrices, que vous avez réuni un ensemble à partir d'un texte de José María de Heredia, un ensemble qui fait enquête. Et vous nous proposez une enquête littéraire, à la fois sur le motif des étoiles, des constellations du ciel qui est au-dessus de nos têtes, tel qu'il apparaît dans la littérature. Et en même temps, me semble-t-il, cette enquête concerne la place des formes, la place des motifs. J'ai conscience que motif résonne à la fois d'une manière picturale et littéraire, la place des formes et du motif dans l'interprétation que nous pouvons en faire. Je crois avoir, grosso modo, résumé votre intention. Alors, vous le faites avec finesse, avec une liberté de ton, vous ne bridez absolument pas votre subjectivité, vous le faites aussi avec humour. Et au début du livre, vous nous dites que, à bien des égards, vous avez rédigé un essai d'astrocritique. Est-ce que vous pouvez, avec humour ou pas, nous dire un petit peu quelles étaient votre intention quand vous avez rassemblé tous ces éléments pour constituer cet essai d'astrocritique?
D'abord, je voudrais remercier Denis Mollat, la librairie Mollat, et puis vous-même, Jean-Michel, de m'avoir invité à parler de ce livre et à lui donner un écho dans un entretien par vidéo. Et puis, je voudrais aussi rebondir sur ce que vous avez dit. Ça va me permettre de répondre à votre question sur l'astrocritique. Il est vrai, et je m'en réjouis, et c'est une chance que j'ai, que ce livre paraît aux éditions de Minuit, avec sa fameuse étoile dessinée par Vercors, comme vous l'avez rappelé, sur la couverture. En vérité, les éditions de Minuit, c'est cette chance que j'ai, sont mon éditeur depuis un certain nombre de livres, depuis une quinzaine d'années environ. Et donc, je n'ai pas choisi l'éditeur pour écrire ce livre. Mais le fait est que, voilà, il y a ici une sorte de conjonction, une coïncidence, je ne sais pas en astrologie quel est le terme qu'on emploie, entre un livre, un sujet, et puis un éditeur. Je trouve cette conjonction particulièrement de bon augure. Je crois que ce livre paraît sous de bons auspices. Et je crois que c'est effectivement l'éditeur le plus adapté peut-être pour publier un essai, comme je l'appelle, comme on dit en anglais, tongue in the cheek, hein, avec un petit sourire en coin, un essai d'astrocritique. Quand je dis essai d'astrocritique, c'est une référence qui n'aura pas échappé au lecteur familier de la collection Paradoxe. C'est une référence à la géocritique, hein, inaugurée par Bertrand Westphal dans plusieurs livres, et un livre en particulier, mais dans plusieurs livres parus chez aux éditions de Minuit dans la collection Paradoxe. Et la géocritique, je ne vais pas ici parler pour Bertrand Westphal, hein, c'est une étude de la façon dont le monde est représenté dans les textes. Or ici, je ne parle pas du monde directement, en vérité, j'en parle. Mais ce qui m'a servi de point de départ, c'est, comme vous l'avez dit, un poème, hein, le sonnet Les Conquérants de José Maria de Heredia, qui se termine par l'apparition d'étoiles nouvelles. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Et c'est à partir de cette image d'étoiles nouvelles qui surgissent du fond de la mer aux yeux des conquérants qui sont embarqués pour conquérir l'Amérique. C'est à partir de cette image-là que j'ai essayé de faire une sorte d'archéologie. Archéologie d'une image de l'étoile nouvelle, de repérer un certain nombre, un grand nombre, je ne suis évidemment pas exhaustif, un grand nombre d'occurrences de cette image des étoiles nouvelles dans la littérature, parfois dans les représentations picturales, mais surtout dans la littérature au sens très très large, au sens très très large du terme. Et à partir de cette histoire qui commence dès l'Antiquité classique, au bout du compte, ce qui m'est apparu, c'est que cette histoire de l'image des étoiles nouvelles qui ouvre de si longues perspectives, en fait, est aussi une histoire de la découverte du monde. Et donc, je fais une astrocritique, puisque c'est vraiment une étude de la façon dont les textes littéraires, et en particulier poétiques, mais pas seulement, représentent le ciel, représentent les étoiles. Mais c'est, au bout du compte, à travers la découverte du ciel, c'est aussi une découverte du monde qui se passe, à cause de phénomènes particuliers, à savoir que lorsqu'on change de position sur la Terre, en fait, on change de ciel et donc on change d'étoile. Et donc, l'astrocritique est aussi une part de la géocritique. Et donc, voilà, oui, c'est un véritable essai d'astrocritique. J'inaugure ce terme et cette nouvelle critique avec ce livre.
Alors, si vous me permettez, pour nos auditeurs, je vais me risquer à lire les deux tercets du poème qui a servi de point de départ à votre réflexion. Les voici. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Ou penchés à l'avant des blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Alors ce poème, qui a eu un succès et une postérité considérable, a été, je l'ai appris en vous lisant, a été au cœur d'une polémique à la mort du poète, parce que notamment un critique qui officiait au temps a reçu une lettre d'un officier de marine qui connaissait le poème, qui admirait le poète, mais a contesté la vraisemblance du vers en disant que cela n'était pas possible, que c'était invraisemblable. Et il y a eu toute une polémique, et vous interprétez, vous démêlez les chevaux de la polémique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, comme vous le rappelez très, très justement, ce poème a été, pendant de nombreuses décennies, et encore jusqu'à maintenant, il me semble, l'un des plus célèbres de la langue et de la littérature française. Alors même que le reste de l'œuvre de José Maria de Heredia est en grande partie tombé dans l'oubli. Et en travaillant sur ce poème tout à fait frappant, avec cette image tout de même saisissante, je dirais sidérante et sidérale, hein, qui le termine, eh bien, j'ai découvert cette polémique qui a eu lieu dans le journal Le Temps, l'un des plus grands journaux de l'époque, en 1905, à la mort donc de José Maria de Heredia, quand le critique du Temps, Gaston Deschamps, a cité, comme il se doit, le poème le plus célèbre du poète. Il a rappelé ces tercets, hein, que vous venez de lire. Et c'est là qu'un capitaine de frégate a écrit au critique pour lui dire qu'il y avait un problème astronomique quand même dans ce poème. Parce qu'en effet, les conquérants qui viennent d'Europe, de Palos de Boguer, hein, ils sont embarqués depuis l'Europe, ils font route vers ce qu'ils ne savent pas être encore l'Amérique, qu'ils croient être le Japon, Cipango, mais c'est l'Amérique qu'ils vont découvrir. Donc ils font route vers l'ouest. Ils sont penchés à l'avant des blanches caravelles, comme le dit de manière très explicite le poème. Et ils voient monter, hein, du fond de l'océan, donc de l'horizon, des étoiles nouvelles, des étoiles qu'il n'avait jamais vues. Et le capitaine de frégate dit, apparemment de manière fort juste, enfin ça correspond à son expérience, que en fait, les étoiles, on ne peut pas les voir monter à l'ouest. Les étoiles, comme le soleil du reste, se lèvent toujours à l'est. Et donc il y a un énorme problème dans le poème, un problème astronomique, qui est que, planchés à l'avant des blanches caravelles, les conquérants ne peuvent pas voir monter à l'avant, à l'ouest, donc, des étoiles. Il aurait fallu, pour cela, qu'ils retournassent la tête, ce qui est une posture un petit peu étrange. Et en fait, donc, Gaston Deschamps publie cette lettre de son lecteur, et cela suscite, aussitôt, plusieurs semaines durant, une série de courriers de lecteurs émanant d'astronomes, de professeurs de littérature, d'autres officiers de marine, de lecteurs amateurs comme vous et moi, et qui interviennent et qui essaient de proposer des solutions pour comprendre ce qui se passe. Alors il y a des astronomes qui disent que, au bout du compte, étant donné l'orientation du bateau, effectivement, on pouvait voir plus ou moins quand même les étoiles se lever à l'avant de la caravelle. D'autres qui imaginent que en fait ce que voient les conquérants, les navigateurs, c'est le reflet des étoiles dans la mer, et donc que effectivement par cela, effectivement, penchés à l'avant, ils peuvent voir les étoiles arriver au zénith en étant penchés sur la mer. Il y a comme ça une série de d'interprétations qui interviennent tout à fait un peu loufoques parfois et qui nous font réfléchir. Et du reste, c'est amusant parce que lorsque j'ai parlé de cela lors de mon cours au Collège de France l'an dernier, d'autres interprétations sont apparues. Et à la parution du livre, par exemple, un auditeur et un lecteur du livre, un auditeur du Collège de France, m'a écrit pour me dire qu'en fait, cette phosphorescence que voient les navigateurs, ce sont en fait des méduses qu'on peut voir à ces latitudes-là, des méduses lumineuses, etc. Donc, la poésie suscite l'interprétation. Et il me semble que ce qui se passe là, et qui est tout à fait intéressant, alors ça nous fait sourire, ça nous fait rire, hein, je pense, et Gaston Deschamps s'amuse de cette polémique qu'il met en scène de manière tout à fait virtuose, il faut le dire. Et donc, je veux lui rendre hommage, parce que je ne fais là que reproduire des textes que Gaston Deschamps, avec beaucoup d'intelligence, a mis en scène, et donc, lui aussi, avec beaucoup d'ironie, hein, il ne prend pas tout à fait au sérieux la polémique, parce que lui aussi est bien conscient qu'il y a un côté un petit peu accessoire et presque à côté de la plaque dans cette polémique. Parce qu'au bout du compte, est-ce que la poésie a pour tâche de représenter la réalité de manière réaliste? C'est une question que l'on peut se poser. Et on peut se dire que le capitaine de frégate avait sans doute tort de vouloir interpréter de manière réaliste le poème. Mais le fait est aussi que l'esthétique de José María de Heredia, qui était une esthétique parnassienne, était quand même une esthétique qui souhaitait reproduire et donner une version de la réalité la plus belle, la plus sublime possible, et qu'il y avait une volonté de représentation du réel, mais de la belle nature, hein, d'un beau réel. Et donc la question réaliste se pose quand même, même dans une poésie, même sur une poésie de José María de Heredia, même sur une poésie parnassienne. Je crois que ce que dit cette polémique, et ce que j'essayais de dire à travers le livre, c'est qu'au bout du compte, la question de la représentation du réel, elle se pose toujours, même à travers une poésie parnassienne ou même poésie surréaliste. Il y a toujours du réel derrière les poèmes, parce que les poètes ne sont pas, malgré ce que certains peut-être ont pu dire, les poètes ne sont pas des gens qui sont perdus dans un univers de langage totalement coupé du monde. En vérité, les poètes parlent du monde. Et même quand Paul Éluard dit que la terre est bleue comme une orange. Au bout du compte, il faut savoir ce que une orange n'est pas bleue pour comprendre qu'il y a là quelque chose qui se passe dans le poème. Et donc, même dans un vers aussi fantasque que celui-là, eh bien, il est question du monde et il est question d'un rapport au monde. Et donc, la question du monde se pose même dans un poème d'esthétique pure comme celui de Heredia. Et je crois qu'il est important, par là, de montrer ce lien qui existe entre la poésie et le monde. Et cette polémique le montre de manière tout à fait éclatante et assez comique, il faut le dire.
Si vous me permettez, William Marx, je trouve que votre façon de mener l'enquête est vraiment à la fois agréable et pertinente. Je me permets de vous le dire. Agréable et pertinente parce que à aucun moment vous êtes tranchant, dogmatique, et en même temps vous défendez des positions qui sont les vôtres. Pour vous, il n'y a aucun doute, la littérature parle du réel, et le fait de poser ce rapport de la littérature au réel n'implique pas de négliger le travail des formes, tout au contraire, cela me paraît très important, et vous le dites. Je voudrais vous entendre sur, justement, l'interprétation que vous risquez concernant ce poème et cette image qui peut-être est invraisemblable, qui sans doute est invraisemblable du point de vue du réel. Vous l'interprétez en disant qu'il est possible que des Heredia aient en quelque sorte superposé les temps et que, parlant de la conquête de ce qui allait être le Nouveau Monde, il parlait vraisemblablement de son enfance. Il y avait eu une sorte de réminiscence d'un fait extrêmement marquant dans sa vie qui était venu affecter l'écriture. Alors, j'aimerais vous entendre à ce propos. Cela m'a beaucoup, beaucoup intéressé de voir comment vous étiez en mesure d'allier un élément biographique avec le travail des formes, le travail de l'écriture.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on oublie peut-être parfois lorsqu'on parle de Heredia, qui a sa place dans les anthologies de poésie française. C'est que Heredia, à l'origine, est un Cubain. Il est né à Cuba. C'est un sujet espagnol né à Cuba. Et il est arrivé en France à l'âge de, je ne sais plus, 7 ou 9 ans sur un bateau, une France qu'il n'a plus quittée. Et ensuite, il a obtenu, mais beaucoup plus tard, bien après avoir écrit le poème Les Conquérants, il a obtenu la nationalité française. Il est devenu l'un des plus grands poètes français de son temps. Donc, c'est un exercice effectivement pour Heredia d'intégration et de changement, mais radical, de latitude, presque d'hémisphère, et qui lui est arrivé dans sa jeunesse. Et il m'a semblé intéressant de voir qu'en fait, ce que raconte Heredia dans ce poème Les Conquérants, c'est une double histoire. Alors, c'est même une triple histoire. On pourrait dire que c'est l'histoire d'un grand événement mondial, hein, qui est la découverte de l'Amérique par les Européens. Mais pour Heredia, pour José María de Heredia, qui était c'est une histoire familiale qu'il racontait, c'est-à-dire qu'il raconte aussi l'histoire de ses ancêtres espagnols arrivés aux Amériques, arrivés à Cuba, et donc ses conquérants, ce sont ses propres ancêtres qui effectivement sont arrivés à Cuba et ont fondé cette famille dont il est sorti. Mais il y a une troisième histoire qui se raconte là aussi, qui est une histoire personnelle, une histoire intime. C'est l'histoire d'un déplacement, c'est l'histoire d'une migration, hein, qu'il a dû faire en raison du mariage de sa mère, du second mariage de sa mère, où à l'âge, donc voilà, avant l'âge de 10 ans, il a pris un bateau depuis Cuba et avec sa mère, il s'est embarqué pour l'Europe, il s'est embarqué pour la France. Et là, effectivement, il est tout à fait possible que on lui ait montré, alors qu'ils étaient en route vers l'Europe, on lui a montré, les marins, le capitaine du bateau, et montré au petit José María, lui a montré ces étoiles effectivement neuves qu'il n'avait jamais vu, parce qu'elle ne les voyait pas à Cuba, mais qui apparaissait là, cette fois-ci, penché à l'avant de, je ne sais pas si c'était une caravelle, enfin du bateau qui l'amenait en Europe. Et là, ils étaient orientés vers l'Est. Et donc, et là, ils pouvaient voir, effectivement, penché vers l'Est, ils pouvaient voir des étoiles nouvelles monter de l'horizon. Et donc, il est tout à fait possible que ce souvenir d'enfance se soit superposé à l'expérience, cette expérience intime soit superposée à ce qui était arrivé à ses ancêtres et à cette grande expérience civilisationnelle qui a été celle de ces conquistadors qui ont découvert l'Amérique. Et donc voilà, il me semble que cette superposition des temps, je crois, elle est tout à fait typique de ce que la littérature et la poésie en particulier peut rendre possible. Et il m'a semblé intéressant de montrer cette interprétation à l'œuvre dans le texte.
J'ai été aussi sensible à ce que vous notez d'entrée dans votre livre. Je vous cite, à propos justement de ces conquérants, vous écrivez ceci. Ceux qui découvrirent le Nouveau Monde n'avaient à leur disposition que le langage du vieux continent. Et cela me paraît vraiment très très juste, dans la mesure où, notamment dans ce poème de Heredia, je perçois, je lis, j'entends l'entremêlement d'une vie psychique, celle du poète, enfant, que vous venez d'évoquer, avec en même temps la grande histoire. Ces Européens, ces marins, ces aventuriers, ces soudards qui partent sur les flots, qui traversent l'Atlantique dans l'espoir d'y découvrir des Indes. Et en fait, pensant trouver les Indes, ils trouvent un nouveau monde. Et je trouve que le texte d'Heredia tresse absolument cette histoire collective avec l'histoire personnelle. Et j'ai été sensible au fait que vous notiez que, bien souvent, la grande histoire, elle est découverte. Nous sommes, nous, les humains, contraints de les formuler dans des langues anciennes.
Oui, tout à fait. Non, et vous faites très bien de le dire que ce sonnet, 14 vers, en fait, il raconte un événement considérable, oui. Hein, considérable, une entreprise, mais qui est aussi une méprise, qui est aussi une erreur, et qui va aboutir à une catastrophe civilisationnelle hein, pour les gens, les habitants des Amériques, mais qui va donc bouleverser le monde. Et tout cela apparaît en 14 vers, hein, à savoir une entreprise cruelle, sanguinaire, conquérante, une mauvaise représentation du monde et une représentation du monde qui est liée aussi à des images qu'ont les conquérants, qu'ont les navigateurs, qu'ont les souverains aussi qui les envoient, une représentation du monde avec les Indes, Cipango qui serait là à portée de main, il suffirait d'aller vers l'ouest et rien ne va se passer comme prévu. Rien ne va se passer comme prévu. Et le langage est là pour dire dans le poème cette sorte de ce malentendu fondamental civilisationnel dont les conquérants, les conquistadors sont la victime. Ils seront les victimes. Leur sort sera plus heureux sans doute que ceux qu'ils vont conquérir hein, et coloniser. Mais néanmoins, il y a ici une sorte de malentendu universel, de catastrophe. Lié à une méprise. Et le langage a cette capacité de s'adapter à des réalités nouvelles. Et c'est un peu ce que dit ce poème, et c'est un peu cette histoire que j'ai essayé de faire. À savoir que ce que j'ai trouvé passionnant, fascinant dans cette recherche, dans cette enquête que j'ai faite, c'est de voir que cette image des étoiles nouvelles, elle avait une histoire. Et une histoire qui remonte à l'Antiquité. Sauf que dans l'Antiquité, les étoiles nouvelles n'étaient pas les étoiles de l'Amérique. Ça avait une autre signification, ça avait beaucoup d'autres connotations, beaucoup d'autres sens. Et José María de Heredia, pourtant, utilise cette image des étoiles nouvelles pour désigner un autre monde, un nouveau monde, hein, que ne connaissaient pas les poètes de l'Antiquité. Et cette donc nous sommes toujours obligés d'utiliser le langage qui est à notre disposition, les images qui sont à notre disposition, les représentations du monde qui sont à notre disposition, pour parler du nouveau, pour parler des découvertes. Et c'est cela, au bout du compte, faire littérature. Parler d'expériences nouvelles à partir d'un langage ancien. Et parfois, effectivement, trouver de nouvelles formes, hein, inventer de nouvelles formes et inventer de nouvelles images. Mais au début, nous n'avons que des mots anciens pour parler des choses nouvelles qui se présentent à nous. Et la littérature, c'est précisément, consiste à trouver ces formes nouvelles qui vont permettre de faire sortir du nouveau. Et c'est ce que fait, au bout du compte, le poème de Heredia, c'est-à-dire par un agencement quand même extrêmement virtuose de son poème, de son sonnet, donner une valeur nouvelle à cette image des étoiles nouvelles qui va marquer la littérature et la poésie française, et ce qui va sans doute contribuer au renom et à la célébrité de ce poème.
Alors votre enquête, justement, vous l'inscrivez dans l'histoire. Vous prenez le temps d'examiner la situation, je dirais, à la fois langagière, mais aussi peut-être fantasmatique et en tout cas idéologique de l'Antiquité. Vous commentez Virgile, Lucain, Horace, et vous partez de l'Antiquité jusqu'à Tintin et Milou, l'île mystérieuse. Vous évoquez Noir Désir. Et chemin faisant, vous rencontrez Keats, et peut-être même que vous vous livrez à une expérience de pensée avec Shakespeare et son Hamlet. Donc vraiment, vous emparez du sonnet des Heredia, et à partir de là, vous déroulez un certain nombre de fils qui vous permettent d'inscrire cette forme, ce syntagme, étoile nouvelle, dans l'histoire. Et vous montrez bien que l'image est là, mais au fil des siècles, sous la plume de tel ou tel, elle est investie de significations différentes. Des étoiles étrangères, des soleils nouveaux, l'on passe aux étoiles nouvelles. Et ce parcours est un parcours qui est idéologiquement marqué, parce que formellement, on pourrait dire, en étant pressé, qu'il s'agit de la même image. En apparence, c'est la même image. Elle ne revêt pas la même signification. C'est cela, je vous ai bien lu ?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que suivant les contextes, effectivement, les mêmes mots prennent des sens différents. Ça, c'est la magie du langage, mais c'est aussi le rôle de l'exégète de le montrer. Et pour donner quelques exemples, c'est vrai que dans l'Antiquité classique, on était bien conscient que lorsqu'on changeait de latitude, on voyait apparaître des étoiles nouvelles. On sait cela depuis Aristote. Mais l'image là, l'apparition des étoiles nouvelles, des étoiles autres, celles qui appartenaient à d'autres peuples, hein, c'est ça que ça signifiait. C'était des étoiles qui appartenaient à des peuples, parce que chaque peuple a ses étoiles, les étoiles étant en quelque sorte les divinités des peuples. Et donc, changer de peuple, changer de pays, c'est changer de ciel, c'est changer de dieu. Et s'échanger d'étoiles. Mais pour les Romains, parce que c'est la poésie romaine que je cite surtout, changer de peuple, c'est l'exil. Et donc, c'est une expérience horrible, épouvantable. Hein. Alors que, effectivement, dans le poème de Heredia, il y a là la découverte du nouveau, et d'un nouveau attirant, hein, qui est une découverte d'une nouvelle beauté. Donc la connotation de l'image était totalement différente, hein, dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité classique, les étoiles autres sont des étoiles qui appartiennent à d'autres peuples. Donc pour les conquérants, ces étoiles nouvelles n'appartiennent à personne. Elles sont nouvelles. Elles leur appartiennent en quelque sorte. Ils les découvrent, ils croient les découvrir, comme si elles n'étaient pas déjà les étoiles des peuples qui habitent les Amériques. Pour Keats, et j'étais content de citer alors l'un des plus beaux poèmes de la littérature, de la poésie anglaise, sur la lecture, après la lecture d'Homère, poème vraiment de la toute première jeunesse de Keats, hein, qui est un poète déjà, mort jeune, hein, grand poète romantique. La découverte de la planète nouvelle, et là c'est une allusion en vérité à la découverte d'Uranus par l'astronome William Herschel à la fin du 18e siècle. La découverte de la planète nouvelle sert d'image pour montrer l'absolu de la nouveauté poétique. Et la nouveauté poétique, pour le poète, dans ce sonnet de Keats, c'est la découverte d'une nouvelle traduction d'Homère, la découverte de la traduction d'Homère par Chapman. Et donc là, c'est extraordinaire de voir que l'image de la planète nouvelle, aussi liée dans le poème, et c'est ça qui fait qu'il y a un rapprochement tout à fait étonnant entre le poème de Keats et le poème de Heredia, aussi lié à la découverte du Nouveau Monde et de l'océan Pacifique, hein, par Cortés, hein, par les conquistadors, est lié pour Keats à la découverte d'un continent, et qui est un continent poétique, qui est l'Odyssée dans la traduction de Chapman. Donc c'est la littérature comme étant un monde extraordinaire, un monde nouveau. Il m'a semblé utile aussi de voir cette image des étoiles nouvelles dans d'autres, voilà, dans d'autres types d'art. Hein. J'ai cité, parce que il y a des analyses d'un type sémiologique des vignettes de bande dessinée à faire tout à fait extraordinaire, me semble-t-il, sur Tintin et Milou, hein, dans l'étoile mystérieuse, où il y a différents types d'étoiles qui apparaissent dans la même vignette. Il y a une étoile dans le ciel, il y a les étoiles qui tournent autour de la tête du chien parce qu'il vient de se cogner à un réverbère. Et tout cela est pris dans un discours d'une complexité de sémiotique tout à fait fascinante et très drôle en même temps. Et donc il y a tout l'art d'Hergé, et il aurait été dommage, je trouve, de se priver de ces étoiles-là, ces étoiles nouvelles de la bande dessinée, dans un livre sur l'image des étoiles nouvelles. Et donc il y a tout un parcours que j'essaye de faire, avec chaque fois des sens différents des étoiles, jusqu'aux étoiles qui auraient pu être dans la littérature et qui n'ont pas été. Et cela m'amène à Shakespeare. Si vous voulez, je puis en parler.
Bien volontiers, William.
Voilà, il me semble qu'en fait, il me semble intéressant de rappeler quelque chose, et c'est un peu ce que j'ai découvert dans cette histoire de l'image des étoiles nouvelles. À savoir que ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est qu'en fait, l'image des étoiles nouvelles qui apparaissent dans le ciel est une image qui était disponible, parce que il n'y avait aucun texte, aucun poète qui avait utilisé cette image pour marquer durablement la littérature et l'imaginaire avant Heredia, pour la littérature française. Et donc, lorsque Heredia écrit son sonnet « Les Conquérants », donc on est au milieu du 19e siècle, effectivement, le sonnet devient très célèbre, très rapidement, et il devient une référence pour les locuteurs français. Et désormais, après Heredia, eh bien, toute référence aux étoiles nouvelles, et on le sait bien, les gens qui lisent le titre de mon livre, toute référence à des étoiles nouvelles fait automatiquement référence au poème de Heredia. L'image n'est plus disponible. Et je cite par exemple Proust, hein, Proust qui, dans la recherche du temps perdu, cite l'image des étoiles nouvelles en faisant explicitement référence au poème de Heredia, et cela pour parler des avions allemands qui passent au-dessus de Paris pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est l'image de Proust, le texte de Proust est tout à fait étonnant, mais c'est une référence explicite au poème de Heredia, parce qu'on ne peut plus faire référence aux étoiles nouvelles sans parler de Heredia. La question que je me suis posée, c'est que se serait-il passé si un autre poète, avant Heredia, s'était emparé de l'image des étoiles nouvelles et en avait fait quelque chose. Et là, à ce moment-là, l'image n'aurait plus été disponible. Et donc, je fais l'hypothèse que, par exemple, William Shakespeare, dans peut-être le passage le plus célèbre de ses tragédies, la longue tirade d'Hamlet dans Hamlet, hein, justement, « To be or not to be, that is the question », hein, « Être ou ne pas être, telle est la question », que serait-il passé si dans cette tirade, juste après le « To be or not to be », eh bien, Hamlet avait parlé d'étoiles nouvelles, hein, Est-ce qu'il vaut mieux mourir ou ne pas mourir? Est-ce qu'il vaut mieux être dans son cercueil ou bien voir apparaître des étoiles nouvelles dans le ciel? Et Hamlet aurait très bien pu faire allusion à ces étoiles nouvelles qu'avaient vues les conquérants, puisque à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, cette image-là est déjà connotée, une image du nouveau monde. Donc, Hamlet aurait très bien pu parler de ces étoiles nouvelles. J'élabore le texte anglais, hein, les vers qu'Hamlet aurait pu dire, et je montre qu'en fait, si dans cette tirade ultra célèbre, écrite par un pseudo Shakespeare, si Shakespeare avait mis ces mots-là dans la bouche d'Hamlet, l'histoire de l'image aurait été toute différente. Elle aurait été toute différente parce qu'elle aurait été marquée par l'environnement d'Hamlet, par l'environnement de cette tirade. Elle aurait été marquée par la mélancolie, par une sorte de désir de suicide, et donc serait par un désir de mort. Et donc il y aurait eu une connotation toute différente donnée à cette image, et sans doute, Heredia n'aurait pas pu écrire le poème comme il l'a écrit, parce que la tirade d'Hamlet était connue en France aussi au XIXe siècle, et donc Heredia n'aurait pas écrit ce sonnet Les Conquérants. Il l'aurait sans doute terminé différemment par une autre image. Il n'aurait peut-être pas du tout écrit ce sonnet, et donc l'image aurait eu un cours tout différent. Et donc voilà, il me semblait intéressant de faire cette histoire de critique fiction, parce qu'elle me semble dire un point important de l'histoire de la littérature et de l'histoire de la poésie. C'est une histoire faite de contingences, faite de hasard. Hein. Les images sont là, les mots sont à la portée, à la disposition de tous, jusqu'à ce que un grand écrivain s'en empare, jusqu'à ce qu'un poème célèbre, un texte célèbre s'en empare. Et à ce moment-là, l'image n'est plus disponible. Elle appartient à ce poète, à cet écrivain, à ce poème, à ce texte. Et à ce moment-là, l'image, faire référence à l'image, la citer, c'est citer en fait le texte en question. Et donc, ça donne un tour différent à l'histoire de ces mots qui ne sont plus libres, qui ne sont plus totalement disponibles. Et dans cette histoire de l'imaginaire, il me semblait important de montrer à l'œuvre cette contingence, hein, que tout n'était pas écrit d'avance. Les choses auraient pu tourner différemment. Et il me semble que là, c'est un point très important de la théorie des images, de la théorie même de la poésie, hein, de l'histoire de la poésie, à savoir que les choses ne sont pas fixées et qu'elles pourraient, à tel moment, tourner différemment. Et de la même manière que peut-être les conquérants auraient pu passer à côté d'un continent, en quelque sorte.
Mais justement, cette quasi-expérience de pensée à laquelle vous vous livrez à propos de Shakespeare et de son Hamlet, est-ce que cette expérience de pensée n'induit pas que, au sein des littératures du monde, Shakespeare et la littérature en anglais occupent une position particulière et peut-être une position non seulement centrale au sens de la stratégie, hein, de l'art de la guerre, un syntagme, une image, une formule, un motif dont Shakespeare se serait emparé et qui aurait tramé la littérature en anglais, ce motif, cette image, occuperait une position qui, à la fois, serait surplombante et en même temps qui, quasiment, je vous paraphrase, interdirait la reprise par d'autres, y compris et surtout dans une littérature d'une autre langue que l'anglais.
Oui, tout à fait. Et je n'ai pas pris le nom de Shakespeare par hasard.
J'imagine.
J'ai voulu prendre le centre du canon mondial. Des raisons que nous savons, qui sont des raisons politiques, économiques, historiques, la littérature en langue anglaise est entrée, est allée, est montée au sommet du canon mondial. C'est une littérature dominante. Longtemps, ça a été la littérature française. Maintenant, le monopole français a été largement partagé et plus que partagé avec la littérature en anglais, même si la littérature en français a encore de beaux restes dans la domination mondiale. Je me réfère ici au livre de Pascal Casanova, La République mondiale des lettres. Mais néanmoins, la littérature en anglais est au centre du canon mondial, et au centre de la littérature en anglais, il y a Shakespeare. Et au centre des pièces de Shakespeare, parmi les plus célèbres, il y a Hamlet, peut-être, et il y a cette tirade d'Hamlet que, dans tous les pays du monde, tout le monde connaît une traduction de cette tirade d'Hamlet. Et donc, ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de mettre cette occurrence fictive des étoiles nouvelles dans cette tirade-là. Parce que il me semble que là, il est certain que si Shakespeare avait placé ces étoiles nouvelles là, effectivement, à ce moment-là, non seulement dans la littérature anglaise, mais dans toute la littérature du monde, en particulier dans les littératures européennes, effectivement, l'image n'aurait plus été disponible. Nous n'aurions plus que faire référence aux étoiles nouvelles, nous aurions été dépossédés de cette image, en quelque sorte. Elle aurait appartenu à Shakespeare et à Hamlet. Mais le fait est que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que Shakespeare n'a pas parlé d'étoiles nouvelles. J'ai fait la recherche, je vous rassure tout de suite. Il n'y a pas, cette image-là n'existe pas dans le corpus, shakespearien. Il y a des images proches, mais pas exactement celle-là. En revanche, ça s'est passé pour la littérature française. Ça s'est passé pour Heredia. Et donc, il y a effectivement un monopole de l'image dans la littérature en français, lié à le fait que ce poème, ce sonnet de Heredia, est dans toutes les anthologies et qu'il est encore très, très connu. Mais, en revanche, l'image dans les autres littératures, l'image des étoiles nouvelles, elle est encore disponible, parce que Heredia est à une place... Enfin, ce sonnet de Heredia a une place importante dans le canon français, mais il n'existe pas, il est inexistant dans le canon mondial. Et donc, il n'est pas impossible qu'un jour, un poète, un écrivain, dans une autre littérature, en anglais en particulier, étant donné la position dominante de cette littérature, eh bien, utilise cette image. Et à ce moment-là, si le texte devient célèbre, si l'écrivain lui-même est célèbre, il faut beaucoup de conditions, hein, bien sûr, à ce moment-là, l'image ne sera plus disponible dans les corpus en anglais et peut-être aussi dans le corpus mondial. Je crois que c'est ce type de réflexion, ce n'est pas une pochade. Je crois que ça nous fait toucher du doigt la question des phénomènes de domination à l'intérieur des littératures, dans la circulation des œuvres, dans la circulation des canons. Et c'est un type d'expérience de pensée tout à fait important, me semble-t-il, tout à fait essentiel. Si je l'ai mise en conclusion, c'est parce qu'au bout du compte, c'est peut-être, l'une des leçons les plus importantes à retenir de cette histoire, à savoir qu'il y a dans la circulation des images, dans la circulation des littératures, il y a des phénomènes de domination hein, qui ont lieu. Il y a des phénomènes de prise de possession de formules poétiques par des écrivains, etc. Et qu'il y a, des enjeux de pouvoir hein, qui sont là présents, même dans la littérature.
Je me permets, je vais vous complimenter. Je trouve que justement, ce que vous venez de dire à propos de Shakespeare, de cette image, de la littérature en anglais, témoigne de ce que je ressens quand je vous lis et quand je dialogue avec vous, c'est-à-dire une pensée ferme, mais une pensée qui est à aucun moment exprimée d'une manière péremptoire ni dogmatique. Vous savez que j'enseigne les littératures en français, qu'il y a tout un débat, je ne vous apprends rien, concernant les littératures monde ou la littérature monde, et je trouve que votre livre permet de nourrir la réflexion et le débat sur la possibilité ou non d'une littérature monde en français, en rappelant un certain nombre de choses concernant justement cette place centrale de la littérature en anglais, de Shakespeare, dans ce que l'on peut appeler le canon de la littérature mondiale. Et vous le faites avec, fermeté, avec sensibilité, et d'une manière absolument pas agressive, pas du tout polémique, et en même temps, vous énoncez des choses qu'il est peut-être difficile de les réfuter. Voilà, je me permets de réagir à votre propos. Voyez-vous, l'heure tourne. J'espère ne pas vous déranger, de vous embarrasser. J'aimerais que cet entretien, dont je vous remercie, puisse s'achever sur une chose peut-être plus personnelle. Dans votre livre, vous écrivez ceci. Dans les villes trop éclairées, où habite une part toujours croissante de l'humanité, le lien avec le ciel nocturne s'est malheureusement rompu. Vivant dans un espace artificiel totalement construit, dont les étoiles ont disparu, les êtres perdent le sens de leur place dans le cosmos. Ils n'imaginent pas même qu'il puisse exister un réel indépendant de tout contact humain, ou que puisse être quoi que ce soit qui n'ait été fabriqué. La morale elle-même paraît arbitraire, toujours sujette à reconfiguration selon les besoins du moment ou de chacun. Et vous terminez sur cette phrase, « Le sentiment de la transcendance s'est effacé sous l'éclairage blafard des réverbères. » Alors non seulement c'est formidablement bien écrit, mais en même temps je sens comme une touche de mélancolie chez vous, de dire que notre ciel, le ciel de l'homme planétaire du 21e siècle, c'est un ciel qui est désespérément vide.
Oui, je vous remercie d'avoir repéré ce passage dans le livre, qui est un passage qui me tient...
Qui est très personnel, j'imagine. Oui,
très personnel. J'en ai comme cela. Il y a certaines touches personnelles qui oui. parsèment le livre à différents endroits, des sortes de confidences intimes. Ce n'est pas parce qu'on fait de la critique littéraire ou de l'histoire littéraire qu'on est interdit de faire de la littérature et de parler du monde, de parler de soi. Donc, je le fais comme ça par ces petites touches. Et effectivement, ce passage-là me semble, enfin, c'est quelque chose que je ressens, mais je ne crois pas être le seul à le ressentir. D'abord, il y a une question tout à fait pratique dont il est arrivé dans l'actualité il y a plusieurs mois, quand on a parlé de la pollution visuelle du ciel, par les villes, par l'éclairage excessif, hein, on en parle régulièrement, et les préoccupations écologiques qui sont celles de notre société fait que effectivement nous sommes plus sensibles maintenant à essayer de vouloir retrouver un contact avec la nature, et en particulier avec des ciels nocturnes qui, pour les urbains qui forment malheureusement la majorité de la population mondiale, ce ciel nocturne a disparu. Il n'y a plus de contact avec le ciel. Et c'est triste, malgré tout, parce que cela correspond aussi à un changement de civilisation, me semble-t-il. Alors, pardonnez-moi de dire ici quelque chose d'une mélancolie, d'une nostalgie, mais en même temps d'un constat, à savoir que lorsque l'on se retrouve en pleine nature... par la nuit et qu'on découvre le ciel, et c'est une expérience que je souhaite en particulier à tous les enfants, à tous les jeunes qui vivent dans nos villes et qui manquent, me semble-t-il, de cette expérience là et bien lorsqu'on découvre le ciel nocturne, la voûte étoilée au-dessus de soi, il y a là une expérience de l'infini, une expérience de la petitesse de soi, une expérience du décentrement que l'être humain peut faire et qui permet de rabattre un peu notre caquet, si je puis dire, en tant qu'êtres humains qui avons parfois un sentiment de toute-puissance. Alors, il est vrai que depuis la pandémie que nous connaissons s'est abattue sur l'humanité depuis une année environ, notre caquet a été largement rabattu. Mais je pense qu'il est... Je crois que notre orgueil, notre prétention, ne serait-ce que dans le triomphe par les vaccins, qui nous permettent de surmonter, je l'espère, cette maladie, sont toujours prêts de renaître. Et je pense que se remettre à sa place, éviter l'hubris hein, dont parlaient les Grecs, hein, se remettre, éviter ce sentiment de cette démesure humaine, c'est une préoccupation très partagée par beaucoup de nos concitoyens, par beaucoup de nos frères humains, hein, à savoir que effectivement, les préoccupations sur l'environnement et sur l'univers sont quand même tout à fait centrales. Et donc, réfléchir sur les étoiles, c'est aussi réfléchir sur notre rapport au monde. Je suis pas certain que des enfants, des jeunes en particulier, hein, ou même des adultes hein, qui ont grandi tout le temps dans les villes, sachent encore ce que sont des étoiles, ce que c'est la multiplicité des étoiles dans le ciel. Et tout cela, évidemment, est assez symbolique aussi d'un autre rapport à la société, à la transcendance de manière générale, et à la morale aussi. Hein. Je cite Kant, et le texte de Kant, à la fin de la critique de la critique est particulièrement frappant. Hein. Le ciel étoilé au-dedans de moi, la loi morale en moi, le ciel étoilé au-dessus de moi. Il y a l'idée d'une transcendance pour Kant, quelque chose qui échappe à l'être humain, qui est d'abord le ciel, mais qui est aussi une loi morale hein, que l'on peut découvrir par la raison. Le fait est que nous sommes dans un tout autre univers, dans un tout autre espace. On peut s'en réjouir, on peut le regretter. Enfin, moi, je le constate. Hein, je pense que le fait de pouvoir construire sa morale est une chose importante à bien des égards. En même temps, peut-être quelque chose se perd. Voilà, je veux pas. Vous dites que je ne suis pas péremptoire, je ne suis pas ferme. Je crois qu'il y a.
J'ai dit que vous étiez ferme. Vous aviez une pensée ferme.
Voilà.
Vous avez une pensée ferme.
Voilà. Une pensée ferme. Voilà. Mais je veux pas avoir une pensée non plus qui soit de la pure nostalgie. Je constate effectivement que coïncide avec cette disparition du ciel nocturne dans nos villes, coïncide aussi une disparition de la transcendance. Pour le meilleur comme pour le pire, voilà. Et cette coïncidence m'interroge. Et donc, je ne peux que le noter. Je ne peux que le noter. Et je crois qu'au moins nous pourrions récupérer un peu de ciel nocturne. Ce serait déjà pas mal. Et parfois aussi, peut-être, un peu de transcendance, un peu plutôt de retour à la place de l'homme dans l'univers et aussi dans la loi morale, dans le comportement que nous avons les uns vis-à-vis des autres, qui sont accessibles pour Kant, et ça me paraît, on peut revenir là à un certain kantisme, qui sont accessibles par la raison. Hein, je crois beaucoup à la raison là-dessus. Une raison qui, pour Kant, représente précisément cette transcendance qui est au cœur de l'homme. Et c'est cela qu'il veut dire. Et ma foi, je reprendrai assez bien ce message hein, pour... pour ma propre gouverne et pour celle de mes lecteurs.
Alors, vous m'incitez, je vais me contredire, vous m'incitez à une dernière et ultime relance. Je trouve que votre livre, c'est une invitation pour vos lecteurs à s'élancer, je vais filer la métaphore, à s'élancer, non pas sur les flots, mais à une traversée de la littérature. Et il me semble que l'on peut suivre votre enquête en repérant au firmament du ciel et au firmament de la littérature des noms, Virgile, Keats, Shakespeare, Homère, on devine Valérie, très souvent, évidemment. Et j'ai l'impression que ce que vous nous invitez, avec beaucoup de tact, et de sensibilité, vous nous invitez à regarder le ciel, à discerner les étoiles, et à partir des étoiles, qui sont des astres objectifs, à esquisser chacun d'entre nous une constellation. Et que votre enquête, c'est une constellation, et vous nous invitez à chacun et chacune d'entre nous à dessiner une constellation.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'irai tout à fait dans ce sens. J'ai fait une enquête, j'ai parcouru des archives, j'ai fait des recherches. J'ai aussi parcouru ma propre bibliothèque personnelle, ma propre bibliothèque mentale, ou bibliothèque invisible. Hein, c'est le terme, la notion que j'essaie de défendre dans mon cours actuel au Collège de France. Et nous sommes tous dépendants de bibliothèques personnelles. Et je crois que je ne conçois mon livre effectivement que comme une invitation à rêver, une invitation à relire des textes, une invitation à en découvrir d'autres, et une invitation à effectivement explorer d'autres images, d'autres références que chacun peut avoir en soi. Je suis loin d'avoir exploré toutes les occurrences des étoiles nouvelles. Et cette question des constellations, qui est une question malarméenne, hein, c'est ainsi que se termine un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Mallarmé, qui est au cœur de la problématique poétique moderne en quelque sorte, mais aussi au cœur de la pensée critique depuis Walter Benjamin, depuis Adorno. Ce terme de constellation est un terme qui est un terme emblématique de la modernité, hein, que nous traversons. Je crois que construire des constellations, c'est ce à quoi nous sommes invités en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire construire des formes dans le ciel, construire des formes dans l'espace qui nous appartiennent, qui nous permettent de nous diriger. Les constellations sont des dessins que crée une tradition astronomique, une société dans le ciel, mais que chacun peut reconstruire à sa manière. C'est un dispositif d'étoiles. Les étoiles sont là, elles sont fixes. Il faut les admettre qu'elles sont là. Mais les dessins que nous formons à travers ces étoiles sont des dessins personnels. Et je crois que comprendre qu'il y a les étoiles qui sont fixes, mais qu'à partir de ces étoiles, nous pouvons imaginer des mondes personnels, nous pouvons construire notre propre liberté. Je suis assez conscient de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui sont là, qui s'imposent, et que la colombe de Kant, elle ne peut voler que s'il y a quand même la contrainte de l'air, hein, qui est là. Alors l'air, ça peut être aussi les étoiles fixes. Et c'est à partir de ces contraintes-là que nous pouvons construire les espaces qui nous permettront de naviguer et de vivre. Et donc, oui, ce livre est vraiment une invitation à construire des constellations propres. Du reste, chaque chapitre porte le nom d'une étoile ou d'un type d'astre ou d'astérisme dans le ciel, et l'ensemble de ces titres de chapitres forment en quelque sorte une constellation propre, mais qui est la constellation du livre, mais une constellation que le lecteur ou la lectrice est vraiment invité à compléter de sa propre manière. Je crois que si le livre est court, hein, je dois dire, j'ai voulu aller vite, faire bref, mais parce que l'idée, c'est quand même de lancer le lecteur sur sa propre rêverie et dans sa propre découverte d'autres pistes, d'autres poèmes, d'autres textes, d'autres étoiles.
Écoutez, William Marx, je vous remercie beaucoup et je peux vous assurer que la lecture de votre livre incite tout à la fois à aller chercher des ouvrages dans sa propre bibliothèque et incite à lever les yeux vers le ciel. Merci infiniment. Merci beaucoup, William
Marx. Merci beaucoup, Jean-Michel.